Vous est-il déjà arrivé de suivre Dieu, d'être plein d'enthousiasme, à l'écoute de sa voix, et puis l'habitude s'installe? Vous continuez de faire les choses, mais il n'y a plus la joie, il n'y a plus le cœur, il n'y a plus le feu. Sommes-nous réellement en train de suivre Dieu? Ou alors vous marchez un temps avec Dieu, avec assurance, avec confiance, et vous rendez compte en cours de route que vous avez perdu sa trace. Pire, que vous suivez quelqu'un d'autre. Sommes-nous toujours en train de suivre Dieu? C'est la triste expérience du peuple juif, le peuple élu, que Dieu a mis à part, que Dieu a fait sortir d'Égypte pour le faire entrer dans la terre promise. Et ce peuple, dans le désert, s'est détourné de Dieu. Ce peuple suivait le serviteur que Dieu avait choisi en la personne de Moïse. Ce peuple a suivi Moïse. Et puis quand Moïse s'est isolé pour s'entretenir avec Dieu, quand le peuple n'a plus vu Moïse, il s'est détourné de Dieu. On peut lire dans Exode 32 au verset 1. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Et oui, nous avons là un peuple qui marche par la vue et non par la foi. Alors quand le peuple voit Moïse, tout va bien. Quand le peuple voit la gloire se manifester au travers de la vie de Moïse, tout va bien. Mais quand Moïse se met à part, là, il n'y a plus personne. Et le peuple est dans la confusion. Alors, le peuple est allé trouver Aaron, le bras droit de Moïse, et lui demande « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, fais-nous. » Savons que c'est le veau d'or, puisqu'Aaron a écouté le peuple. Il lui a demandé de ramener des objets, des bijoux d'or, et puis ils ont coulé tout ça et en est sorti le veau d'or, devant lequel le peuple s'est prosterné. Un veau d'or comme l'image, la représentation de Dieu, un animal qui broute l'herbe. C'est terrible. Bien sûr, ça a enflammé la colère de Dieu contre son peuple. Et il y a une discussion entre Moïse et entre Dieu. Moïse va essayer de plaider la cause de son peuple pour implorer le pardon de Dieu. Et nous pouvons lire dans Exode 32, au verset 32, « Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Voilà le cœur de Moïse qui va trouver Dieu en lui disant « Efface mon nom de ton livre de vie si tu ne pardonnes pas ce peuple. » Ces paroles montrent un profond attachement de Moïse envers son peuple. Et Dieu a accepté de revoir son jugement. Il a écouté son serviteur et il a accepté de pardonner son peuple. Et cela nous mène dans Exode 33, le chapitre que nous allons étudier ce matin, Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Tu es un peuple au cou raide, dit le Seigneur, alors je ne monterai pas au milieu de toi. » Si certains ont le cou roide, ce n'est pas une erreur d'orthographe, c'est deux mots qui veulent dire la même chose. Ça semble des paroles dures de la part de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu, qui est un Dieu d'amour, est également un Dieu de justice, également un Dieu saint. À cause de sa fidélité à sa parole, il a promis de donner la terre promise aux descendants d'Abraham, de Moïse et de Jacob. À cause de cette parole-là, eh bien, il accepte de conduire son peuple au pays promis. Mais à cause aussi de sa sainteté, il ne veut plus demeurer au milieu de son peuple parce que la lumière ne peut s'allier aux ténèbres. Alors si le peuple a choisi les ténèbres, eh bien, c'est comme s'il avait rejeté Dieu. Dieu ne peut plus siéger au milieu de son peuple. Les ténèbres et la lumière ne peuvent se marier ensemble. Je continue au verset 4. « Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. » Donc le peuple est attristé. Il enlève ses ornements. Certains, dans vos Bibles, peuvent avoir pour traduction comme parure, n'est-ce pas? Ou dans la version de Parole vivante, vous trouverez aussi les habits de fête. Donc le peuple enlève ses habits de fête. Les habits de fête que le peuple avait portés quand il s'était prosterné devant le veau d'or. Ils étaient dans la joie, ils étaient dans la fête, ils étaient dans l'adoration, dans la louange. Ils n'adoraient pas Dieu, ils adoraient une idole. Alors, le peuple décide d'enlever ses habits de fête, décide d'enlever ses ornements, ses parures. Les ornements, ce sont tous ces habits inappropriés que l'on porte parfois, des vêtements spirituels, mais qui ne sont pas adaptés. Peut-être parce que c'est le mauvais moment. Ce sont tous ces manteaux de joie que nous portons quand le cœur de Dieu est attristé à cause de son peuple. Ou c'est encore quand, au lieu de se réjouir avec Dieu, on est attristé parce qu'on regarde à notre situation. Peut-être qu'un frère est béni, peut-être qu'une sœur est guérie, peut-être que quelqu'un a obtenu quelque chose de Dieu. Et au lieu de se réjouir avec Dieu, on regarde à nous-mêmes, à notre propre situation, à nos propres défis, à nos propres souffrances. On revêt nos ornements, ces habits spirituels inappropriés. On porte encore ces ornements toutes les fois où on est blessé et au lieu de laisser faire la justice de Dieu, on essaye de faire notre propre justice. Ou quand on est blessé, au lieu de pardonner, on laisse la rancœur, l'amertume gagner notre cœur. Alors on porte nos ornements qui déplaisent à Dieu. Les ornements, c'est encore tous ces habits religieux qu'on porte pour faire semblant ou pour faire comme les autres, pour faire mine d'être quelqu'un de spirituel. Tous ces ornements, Dieu a en horreur. Je poursuis au verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Vous avez certainement dans vos traductions la tente de la rencontre, n'est-ce pas? Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, ou la tente de la rencontre, qui était hors du camp. Moïse donc déplace la demeure de Dieu qui se trouvait au milieu du peuple, il le déplace hors du camp. Et c'est terrible, parce que Dieu voulait habiter, siéger au milieu de son peuple. Mais le drame de l'humanité, c'est que Dieu qui cherche une relation personnelle avec son peuple, eh bien, le peuple, lui, a préféré s'écarter. Le peuple a préféré se mettre à distance de Dieu et laisser aller un intermédiaire. Là, l'intermédiaire, c'est Moïse. Le peuple a préféré que Dieu s'adresse à un intermédiaire au lieu de s'adresser directement à lui. On peut trouver dans Exode 20 au verset 18, « Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du cor et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. » Voilà, c'était la peur qui dictait les actes du peuple, la peur. Alors la crainte de Dieu, c'est une chose, hein, mais la peur, c'est autre chose. La crainte de Dieu nous pousse vers Dieu, nous pousse à être en relation avec lui, tout en changeant nos mauvaises voies, tout en changeant ce qui lui déplaît. Tandis que la peur nous éloigne de Dieu et n'amène aucun changement. C'est pour ça que Dieu a qualifié son peuple de peuple au cou raide, un peuple qui préfère l'éloignement, un peuple qui refuse de se repentir et de changer ses mauvaises voies. Donc au verset 8, lorsque Moïse, donc l'intermédiaire que ce peuple avait choisi, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, tout le peuple se levait, se prosternait à l'entrée de la tente. Les conséquences d'une foi vécue par procuration sont terribles. La première conséquence, c'est que il y a une distance entre Dieu et nous. La deuxième conséquence, c'est qu'on s'expose ainsi à l'idolâtrie. L'idolâtrie d'abord de l'homme de Dieu, de l'intermédiaire qu'on a choisi, mais c'est aussi l'idolâtrie de toutes sortes de choses. Là, dans ce cas-là, c'était le veau d'or. Mais c'est aussi tous les dieux qu'on se construit dans nos vies pour pouvoir combler ce vide, parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse combler nos cœurs. Et si nous choisissons un intermédiaire, eh bien, au lieu d'avoir une relation personnelle avec lui, eh bien, forcément vont s'ériger dans nos vies des idoles qui porteront différents noms selon les situations, selon les personnes. La troisième conséquence, c'est que avec un intermédiaire, on est toujours tributaire de la personne. Alors, quand la personne est attachée à Dieu, tout va bien. Mais quand la personne ne craint plus Dieu, eh bien, ça nous expose à une mort spirituelle. Et c'est ce qui s'est produit, si vous lisez les chroniques ou les rois dans l'Ancien Testament. Nous voyons à chaque fois qu'il y avait un roi qui servait Dieu, eh bien, il y avait la bénédiction dans le pays. Mais quand les rois se détournaient de Dieu pour servir des idoles, eh bien, la malédiction entrait dans le pays, avec la désolation, avec les guerres, avec la déportation. Quand on est tributaire d'une personne, eh bien, on est aussi à la merci de son obéissance ou de sa désobéissance. Verset 11, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à un ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. » Là, on voit Josué, son jeune serviteur. Oh, nous le verrons plus loin, en train de mener bataille pour faire entrer le peuple dans le pays promis. Mais là, on le voit dans sa jeunesse. Et là, c'est juste une parenthèse. Il ne sortait pas du milieu de la tente. Ton intimité avec Dieu détermine tes victoires futures. Ton intimité avec Dieu détermine les victoires à venir. Dieu s'entretenait avec Moïse comme il parle avec un ami. Il y avait ce cœur à cœur, cette proximité. Ils pouvaient tous dire. Alors, Moïse commence une négociation avec Dieu. Voyons au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Dans la négociation, Moïse obtient que Dieu finalement marchera avec son serviteur. « Je marcherai avec toi. » Mais Moïse ne regarde pas à lui-même. Ça ne lui suffit pas. Moïse tente de détourner le regard de Dieu de lui-même vers son peuple, vers le peuple de Dieu. Moïse avait compris que la bénédiction se trouve dans la présence de Dieu. Il voulait non seulement en jouir, mais faire jouir aussi tout le pays. « Je marcherai moi-même avec toi. » Mais Moïse veut plus. Moïse veut que son peuple connaisse la gloire de Dieu. Et il va prononcer ces paroles qui vont tout changer, qui vont toucher le cœur de Dieu et qui vont faire la différence. Il va prononcer ces paroles dans le verset 15. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point sortir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Ce sont des paroles qui révèlent le zèle de Moïse, qui révèlent aussi la détermination et aussi tout l'amour qu'il avait pour son peuple. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, alors ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Voilà, Moïse a obtenu par l'intercession, par la prière ardente, il a obtenu ce qu'il désirait. Moïse a réussi finalement à infléchir le cœur de Dieu. Il a réussi à déplacer le regard de Dieu simplement sur sa personne, puisque Dieu s'adressait personnellement à Moïse en disant « Je marcherai avec toi ». Mais Moïse n'était pas centré sur lui-même. Moïse négociait pour le « nous ». « Marche avec nous ». L'intercession, c'est quand Dieu se détourne de son peuple à cause de son péché et que quelqu'un le supplie ardemment, de tout son cœur, de faire miséricorde. Moïse est vraiment un puissant exemple d'intercesseur qui a porté son peuple jusqu'à vouloir perdre sa vie pour lui. Si tu ne pardonnes pas, alors enlève mon nom du livre que tu as écrit. C'est fort, hein ? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'intercéder comme cela pour un ami, pour un frère ou une sœur, ou pour l'Église, ou pour notre nation, ou pour notre entourage? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'intercéder de cette façon-là? Moïse est une figure de Christ. Vous savez que dans l'Ancien Testament, eh bien, on peut déjà voir les prémices de ce que allait accomplir Jésus. Nous devons lire le Nouveau Testament, non pas pour que notre connaissance soit gonflée, ou parce qu'on a un intérêt historique, certes, nous devons lire l'Ancien Testament pour y chercher Christ, parce que le message de l'Évangile était déjà annoncé depuis le commencement. Voilà comment nous devons aborder les Écritures, trouver Jésus dans les Écritures. Et Moïse, là, est une figure, on appelle ça aussi un type de Christ, une préfiguration de ce que Jésus allait accomplir à la croix, en se donnant lui-même. Parce que Jésus, comme Moïse, n'a pas regardé à lui-même. Il a donné sa vie pour sauver l'humanité. Et si nous nous tenons aujourd'hui en ces lieux, ce matin, c'est que quelque part, nous avons saisi cette promesse de Dieu, cette promesse de réconciliation. Alors Jésus n'a pas regardé à lui-même, parce que s'il avait regardé à lui-même, eh bien, il se serait détourné de son objectif, puisque c'est sur nous que la condamnation devait tomber. C'est nous qui devions porter cette couronne d'épines. C'est nous qui devions recevoir les coups de fouet et les insultes et les crachats à cause de notre péché, de notre rébellion à Dieu. Mais Jésus n'a pas regardé à lui-même. Il regardait à moi, il regardait à toi, il regardait à nous. Et c'est cet amour ardent pour nous qui l'a poussé à renier sa vie pour porter la condamnation que nous devions porter. Il a porté la condamnation à notre place. Voilà l'exemple que nous devons suivre aujourd'hui si nous suivons Dieu, si nous nous disons chrétiens, nous devons, comme Jésus, faire acte d'humilité et prendre finalement les péchés des autres et puis les apporter devant le trône de Dieu en intercédant, en disant « Dieu, fais grâce à ton peuple, nous ne pouvons plus continuer comme ça ». Voilà l'exemple d'humilité, le don de soi, le don parfait, l'amour véritable. Je reviens à ma question du début. Sommes-nous réellement en train de suivre Dieu ? Dieu est-il vraiment au centre de notre vie, comme on le chante, au centre de notre communauté ? Certains ont pensé servir Dieu, mais en réalité, ils ont servi une religion. Ils ont suivi une cause. Ils ont suivi une organisation, un mouvement, une dénomination, laissant ce Dieu vivant, ce Dieu qui voulait avoir une relation intime, laissant ce Dieu-là de côté. Marchons-nous réellement avec Dieu ? Dieu désire marcher chaque jour avec nous. Et quand on ne sent plus sa présence, ce n'est pas lui qui s'est détourné, c'est nous qui nous sommes détournés de ses voies. C'est nous qui nous éloignons de sa présence en suivant nos propres voies, nos propres pensées ou nos visions. Et quand il y a des visions humaines, quand il y a 2 visions, 3 visions, quand il y a 5 visions, quand il y a 10 visions dans l'Église, alors il y a 10 visions. Quand il y a 10 visions, eh bien il y a 10 visions. Mais nous, nous ne cherchons pas la vision d'un homme, nous cherchons la vision de Dieu. Amen. S'il y a la vision de Dieu, alors il y a une seule direction. S'il y a la vision de Dieu, alors il y a la bénédiction. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, Seigneur, nous n'irons nulle part. Dieu, nous avons besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de la vision d'un homme. Nous avons besoin de suivre ta vision pour cette nouvelle année. Nous ne voulons plus marcher dans nos propres pensées, selon nos propres projets, comme nous avons pu le faire par le passé. Et nous nous repentons. Nous voulons marcher, Seigneur, cette année dans la vision que tu as tracée pour nous-mêmes. Dieu, si tu ne marches pas, nous n'irons pas plus loin. Vous savez, le peuple juif suivait une colonne de nuées, et puis quand Dieu voulait que le peuple s'arrête, la nuée s'arrêtait, et le peuple installait son campement. Et puis quand Dieu voulait que le peuple reparte, eh bien la nuée se déplaçait. Quelques siècles plus tard, Jésus est envoyé par Dieu et des foules entières le suivaient. Et un jour, il dit à ses disciples, après avoir multiplié les pains et les poissons, après avoir béni toute une foule, il dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Passons sur l'autre rive. Vous trouverez ce passage dans Marc 4, au verset 35. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Alors les disciples qui avaient compris que Jésus était l'envoyé de Dieu ont suivi Jésus. Et puis Jésus était dans la barque, il dormait. Et à un moment, la tempête s'est levée. Et là, ils ont cru périr. Alors ils se sont tournés vers Jésus en disant « Mais ça ne te fait rien, nous allons mourir ». Et Jésus a accompli ce miracle. Il a, avec sa parole, calmé la tempête. Passons sur l'autre rive, en ayant cette conviction que Jésus se trouve dans la barque. Alors si Jésus est dans la barque, eh bien rien ne pourra nous arriver. Ses disciples, d'ailleurs Jésus leur a reproché de manquer de foi et de ne pas prendre autorité sur les éléments. Si Jésus a dit « passons sur l'autre rive », eh bien les disciples auraient su qu'ils iraient sur l'autre rive et que rien ne pourrait leur arriver puisque Jésus est dans la barque. Si Jésus a dit, Jésus le fera. Passons sur l'autre rive. La marche avec Dieu ne peut pas se faire sans difficulté. Mais la marche avec Dieu est une marche miraculeuse. Parce que nous avons avec nous le Dieu des miracles. Nous voyons aussi l'exemple de Pierre. Vous savez, Pierre qui a vu Jésus marcher sur les eaux. Au départ, il pensait que c'était un fantôme, mais quand il a compris que c'était Jésus, il a voulu le rejoindre. Il a voulu aussi, lui, faire ce pas de foi et marcher sur les eaux. Et quand il regardait Jésus, quand il avait les regards fixés sur Jésus, eh bien, il marchait réellement sur les eaux. Mais quand il a commencé à regarder aux éléments, eh bien, il a commencé à sombrer. Mais il a pu quand même goûter au miraculeux de Dieu. La marche avec Dieu est une marche miraculeuse. Dans notre marche, s'il n'y a pas une part de surnaturel, eh bien, on marche par la chair ou on marche par l'incrédulité. La marche par la foi n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Alors, excuse-moi de te le dire, mais si tu mènes ta vie de foi sans jamais voir de miracle, c'est que très certainement, tu marches par la chair. Autrement dit, c'est toi qui conduis ta foi et ce n'est pas Dieu qui la conduit. Parce que la vie avec Dieu est une vie miraculeuse. J'aimerais vous apporter un petit témoignage. Il y a de cela 4 ans ou 5 ans, j'avais à cœur de m'arrêter pendant une année scolaire pour servir davantage le Seigneur. Mais je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Dieu avait juste déposé en moi cette pensée, arrête-toi pour entrer plus dans ma présence et pour me servir davantage. Alors j'ai fait ce pas de foi, j'ai posé une année de disponibilité dans l'éducation nationale et puis je me souviens ce premier jour, le 1er septembre, quand la disponibilité commençait, je ne savais absolument pas de quoi serait faite mon année. Mais je suis resté sur cette parole du Seigneur, arrête-toi pour me servir. Alors je me souviens ce lundi matin, ce lundi de pré-rentrée, alors que les collègues étaient au travail, ils m'ont envoyé un texto, alors on t'attend pour le café, pour rigoler, pour me taquiner. Alors ce matin je me suis levé, puis je me suis agenouillé devant Dieu et puis j'ai dit Seigneur, voilà, je t'ai obéi maintenant. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais j'ai confiance que tu as quelque chose, des projets pour moi cette année. Et à peine la prière finie, que mon portable se met à sonner assez tôt le matin. Un pasteur, quelque part du côté de Saint-Brieuc, m'appelle. Il ne connaissait pas ma situation. Et il me dit, écoute, j'ai un projet d'évangélisation sur une semaine et j'ai pensé à toi. Est-ce que tu voudrais venir nous aider dans la louange? Et là, j'ai vraiment vu le clin d'œil de Dieu. C'était en semaine, donc si je travaillais, je n'aurais pas pu honorer cet engagement. Et puis, plus tard dans la journée, un autre pasteur m'appelle dans l'est de la France en disant, on a pensé à toi aussi, on a une campagne d'évangélisation, est-ce que tu voudrais venir nous aider? Et deuxième clin d'œil de Dieu, et je vous promets que cette journée-là, le premier jour, j'avais fait ce pas de foi, le téléphone a sonné plusieurs fois pour me proposer des choses. Les projets de Dieu étaient déjà engagés, mais moi, je ne le savais pas. Et en une semaine, mon planning était vraiment très rempli sur toute l'année. Et j'ai pu servir le Seigneur en voyant sa main, en voyant sa fidélité, avec cette conviction que Dieu pourvoit si on fait ce pas de foi. Cette année, j'ai vraiment vu le miraculeux de Dieu dans ma vie. Alors, il est temps cette année, frères et sœurs, de passer sur l'autre rive en faisant confiance que Dieu pourvoira. Si nous le suivons, si nous faisons de Dieu le centre de nos vies, eh bien, Dieu a déjà des projets qu'il a prévus pour chacun afin que nous les accomplissions. Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne voulons pas continuer. Je veux prier pour nous ce matin. Alors, si vous voulez vous lever, si vous voulez vous joindre à cette prière, j'ai prié que Dieu soit le centre de cette année. Seigneur, tu vois ton peuple ce matin qui se lève pour toi, qui se lève pour, comme pour dire, voilà Seigneur, nous nous levons. Nous nous levons non pas pour un homme, non pas pour servir la vision d'un homme. Nous nous levons pour entrer dans ta vision et dans tes projets, les projets de paix que tu as prévus pour chacun. Et nous disons, voilà, nous sommes là, nous sommes prêts à te servir. Alors parle, parce que nous sommes tes serviteurs et nous t'écoutons. Nous ferons ta volonté cette année. Nous ne voulons pas, Seigneur, comme nous avons pu le faire par le passé, suivre notre propre voie, suivre nos projets ou nos visions, Seigneur. Nous avons bien vu ce que ça a donné. Seigneur, cette année, nous voulons suivre ta vision. Et nous avons cette foi que nous verrons ta main au quotidien, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta conduite. Merci pour ta fidélité. Parce que tu vas demeurer chaque jour à nos côtés. Parce que nous serons obéissants, Seigneur. Et tu vas nous bénir dans ton nom, Jésus. Amen. Amen.